France.
Il est 15h03 sur France Inter. Tout de suite, Daniel Mermel, là-bas si j'y suis.
Konnichiwa, Daniel-san. Là-bas, moi, j'y suis. Ondine, qui t'appelle du Japon, de Tokyo, où j'habite depuis 2 ans et demi. Je voulais te remercier d'abord pour toutes tes émissions que j'écoute sur mon périple ferroviaire. Quelle bouffée d'oxygène mental. Et Dieu sait que j'en ai besoin. Merci d'être venu aussi dans le Japon post-11 mars 2011. Et puis je voulais te transmettre une information que j'ai lue ce matin dans la presse. Et 6 membres de la préfecture de Fukushima, 6 travailleurs se sont rendus dans la zone interdite, dans le quartier d'Odaka, à Minami-Soma, depuis hier, pour commencer à abattre le bétail agonisant. 887 vaches, 80 chevaux, 6200 cochons, 260 000 poulets qui ont commencé leur existence en octobre dernier. Voilà, le miroir de la condition animale, c'est le miroir dans lequel nous devrions nous regarder. Gambaro, courage, comme disent les Japonais. Merci.
Joyeux anniversaire, Tchernobyl, joyeux anniversaire.
26 avril 1986. La nature se réveillait. C'était la fin du mois d'avril. Et tandis qu'on se promenait, un cœur sauta à Tchernobyl. Bien malin qui s'en aperçut, mais tous les radionucléides nous font dire joliment dessus, silencieux et insipides. Discrètement, sans crier gare, ils parcoururent le ciel désert, certains en passant les frontières de ne froisser aucun regard. Les responsables du pays furent contraints de l'avouer, le triste nuage parti, nul ne pouvait plus l'arrêter. Marxistes ou capitalistes, nous fûmes tous au même point. Ignorants ou bien atomistes, la pollution allait très loin. Seule la France fut épargnée, si l'on croyait les responsables. Et tous nos voisins étrangers se gaussaient bien de cette fable. Promis, juré, il n'y avait pas de quoi fouetter un becquerel. C'est alors que vers la mi-mai, il fut mis fin à la querelle. Oui, le nuage était passé. Les scientifiques officiels nous rassurèrent avec brio, affirmant que la vie était belle et que l'incident était clos. Ils ne nous précisèrent pas que certains radioéléments sont actifs pour très longtemps, même si on ne les voit pas. Le citoyen, tout est bobby, ne connaît pas cet art subtil. Personne ne lui a appris ses connaissances inutiles. À suivre, hélas. Eliane, dans la Drôme, qui a participé à la création de la CRIRAD.
Bonjour, voilà un résumé de l'article du 20 avril lu sur le site de RFI. Violente manifestation en Inde contre un projet de centrale nucléaire par Areva. Un mort, plusieurs dizaines de blessés. Les populations locales s'opposent depuis plusieurs mois au projet de centrale nucléaire par le groupe Areva à Jaitapur, au sud de Bombay, qui se trouve dans une zone sismique peu éloignée de la mer. L'accident de Fukushima au Japon a clairement envenimé la situation. Voilà, je me disais que Mme Alliot-Marie a peut-être une solution à proposer pour rétablir l'ordre. Ah non, pardon, maintenant c'est Juppé. Bonjour à tous, c'était Laurent du Finistère.
Mais ça y est. On va tous crever, mais nous les vieux écolos, on va crever aussi. Nous les passéistes du retour à la bougie, etc., on va crever pareil. Mais nous, on va crever contents, parce qu'on aura eu raison. C'était Michel dans les Ardennes.
Ouais, alors Michel dans les Ardennes, ça aurait pu être un message qu'on nous aurait adressé depuis Plogoff. Aujourd'hui, vous avez compris, à l'occasion de l'anniversaire, le triste et sinistre et épouvantable anniversaire de Tchernobyl, nous, on va aller à Plogoff. Et ceux qui ont un petit peu de bouteille, comme c'est le cas de Michel, eh ben ça va leur rappeler pas mal de choses, cette lutte héroïque des habitants de Plogoff contre la construction d'une centrale nucléaire à la fin des années 70 dans leur village qui à l'époque faisait 2000 habitants. Comment ils se sont battus, comment ils ont rusé, comment ils ont mis toute leur fierté, leur énergie, et pas seulement les habituels défenseurs de la nature et qui lutte contre le nucléaire. Non, ça a été vraiment tous les habitants. Quand on dit une levée de bouclier, ça a été littéralement une levée de bouclier, mais plutôt du côté des gardes mobiles, pour se protéger de quoi? Des pierres et des caillasses que les habitants de Plogoff leur lançaient sur le museau. Ça a duré six semaines de lutte et tout le monde s'y est mis dans ce village. Alors vous pensez tout de suite au village Astérix, etc. Mais enfin, ça a quand même eu pour résultat. Et ben voilà, dans la série On perd pas toujours, la centrale n'a pas été construite à Plogoff. Alors c'était une époque particulière, évidemment, comme toutes les époques, vous allez me dire. Mais il y avait une circonstance politique bien précise qui était les élections qui approchaient, 1980-1981. On célèbre ces jours prochains l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Eh bien, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1981, il a entériné le désir des habitants de Plogoff de ne pas avoir de centrale. Voilà, donc, on est retourné là-bas avec Antoine Chaot sur cette histoire et à travers surtout le travail formidable qu'on fait à l'époque deux cinéastes, Nicole et Félix Le Garec, qui ont produit un film « Des pierres contre des fusils » et qui est vraiment le type même du film engagé et réussi, qui a été vu par des dizaines de milliers, mais 250 000, 300 000 spectateurs, et qui dit, c'est Nicole Le Garec qui dit ça, finalement, eh bien les spectateurs, les protagonistes, les militants de cette histoire, eh bien se sont appropriés complètement ce film, c'est-à-dire c'est un beau travail, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont rendu aux protagonistes, aux acteurs, les images qu'ils avaient faites de Plogoff, des pierres contre des fusils. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Eric, à bord du bateau solaire Londine à Gérardmer, bateau qui fait le tour du lac. Donc c'est pour vous prévenir que le repère de là-bas, si j'y suis, est changé. Donc ce sera mardi à 20h30 au bar Le Grattoir, et le thème en sera le nucléaire et l'accident de Fukushima. Voilà, bonne journée à tous. Ciao, ciao.
Bonjour Daniel. Ma foi, c'est impressionnant, hein, la façon dont les gens sont manipulés. Ça me fait penser à quelque chose. Donc moi, quand j'ai commencé à avoir 18, 19, 20 ans, j'étais un peu comme la plupart des gens aujourd'hui. Je croyais les politiques, je croyais mes patrons, je croyais les promesses qu'on me faisait. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, ma foi, les promesses politiques, c'était surtout des arguments de campagne qui n'aboutissaient pas à grand-chose, que les patrons, ils avaient beau nous promettre des améliorations de nos conditions de travail, ça n'avait jamais lieu, pour de pseudo-bonnes raisons à chaque fois, bien sûr. Maintenant, je suis maman, et puis je me demande bien comment faire de mes enfants des citoyens responsables, des acteurs de leur vie et de leur république. Alors, j'ai quand même quelques pistes. Je me doute bien qu'il faut déjà commencer par ne plus être désinformé. Donc, j'ai éteint la télé, j'ai éteint TF1. Ensuite, je pense qu'il faut être informé. Alors, je lis le Courrier international, je lis le Monde diplomatique, j'écoute là-bas si j'y suis et France Inter. Mais ensuite, pour être réellement acteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, signer des pétitions sur Internet, ça c'est facile, mais... Et la suite? La question est ouverte. Si tu pouvais nous donner quelques pistes, comment faire de nos enfants de véritables acteurs qui pourront changer le monde de demain? À bientôt. Ciao, viva.
Les présidentielles approchent et les instituts de sondage vont intensifier leur tir à l'arme lourde sur tous les sujets. Mais les auditeurs peuvent aussi jouer avec l'opinion et inventer des questions qui permettent d'obtenir 70% de réponses favorables ou défavorables. Il suffit pour cela de respecter deux règles simples. Premièrement, la question doit suggérer elle-même la réponse souhaitée. Attention au choix des mots et des adjectifs. Deuxièmement, la question ne doit proposer que des réponses simples du genre « oui, non », favorable, défavorable, bonne idée, mauvaise idée, d'accord, pas d'accord. Essayons maintenant sur un sujet d'actualité, la Tunisie et les Tunisiens. Sondage pour le Figaro, avec une réponse attendue défavorable. Question, depuis la Révolution, les Tunisiens émigrent en grand nombre vers l'Europe. Êtes-vous favorable ou défavorable à ce que la France accueille tous les Tunisiens qui le demandent? Réponse attendue, 60% de défavorable. Que l'on peut porter à plus de 70% avec un plutôt défavorable qui permet à un nombre plus important de sondés de se lâcher. Autre sondage pour témoignage chrétien. Avec une réponse attendue, favorable. Question, la Tunisie a été l'actrice de la première révolution pacifique du XXIe siècle et sa démocratie reste fragile. Êtes-vous plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord à ce que la France, amie de la Tunisie, soutienne le développement économique de ce pays? Réponse, 70% de plutôt d'accord. Amusez-vous en famille, inventez-vous aussi les questions qui ramènent 70% de bonnes réponses. Si 3 personnes sur 4 donnent la réponse attendue, c'est gagné.
Occupé, encerclé, quadrillé, emprisonné, Logoff ne baisse pas les bras.
Des pierres contre des fusils, un film de Nicole et Félix Le Garec.
Des sentinelles se relaient en haut du clocher. Et dans la campagne.
1980.
EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogov.
Plutôt mourir s'il le fallait, plutôt mourir que de voir nos terres détruites, nos maisons détruites également, et être obligé de nous implanter ailleurs.
En 80, les pierres ont vaincu les fusils. Voilà.
Et oui. Alors, le titre, par moment, a été transformé des fleurs. Des fleurs contre les fusils. Ah, c'est marrant.
Les hommes, je sais que vous êtes énervés, mais concentrez-vous sur Plogov. N'ayez pas peur de démolir les issues qui mènent à Plogov. Que nous soyons une île qui ne puisse pas venir chez nous. Mais...
Il y a une fierté quand même, hein. Il y a une fierté quand même d'être parvenu à faire plier, on peut dire, et puis à s'opposer réellement, quoi, avec une réussite.
D'autant plus que les événements du Japon, je pense que là aussi, ça fait réfléchir les gens. Il ne faut pas s'indigner, il faut se révolter.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Basse où j'y suis, avec Antoine Chao, Plogoff, les pierres contre les fusils, un moment d'écologie populaire.
Voilà, on y est, c'est l'entrée de Plogoff, et sur ce château d'eau, c'était « Plogoff n'est pas Kaboul ». C'était l'invasion de l'Afghanistan. Effectivement, quand les parachutistes sont arrivés parce que les gardes maudits ne suffisaient plus. Donc les parachutistes sont arrivés à Plogov. Et là, une femme de Plogov leur a dit « On est à Plogov ici, monsieur. On n'est pas à Kaboul. »
Ah, les communistes avaient mauvaise presse, hein,
à ce moment-là, oui.
À Plogov aussi, quoi, parce qu'ils étaient pour.
Oui,
donc,
à Plogov aussi. Plusieurs personnes ont déchiré leurs cartes.
Bon, il y en avait certainement qui avaient déchiré leurs cartes du RPR aussi, hein. On va pas me tomber sur le dos.
Voilà. Je pense que à Plogov, ça commençait à donner des craintes aussi aux gens de droite, aux politiques, parce qu'ils disaient, mais ce sont des électeurs, là, qui sont en train de passer de l'autre bord, quoi.
Ils s'en souviennent toujours, ils ne sont pas prêts d'oublier ce 10 mai 1980, lorsqu'ils ont appris que Plovgov avait gagné une seconde d'explosion de joie dans le local de Radio Plovgov. Il y avait une radio. Pour la première fois, au terme d'une résistance de 5 ans, marquée par des affrontements que vous entendez très violents, de 6 semaines d'enquête publique, eh bien, cette résistance avait fait reculer le colosse EDF et le lobby nucléaire. C'était en 1981. On va revivre ces moments à travers ce film qui a été réalisé à l'époque par Nicole et Félix Le Garec, Les pierres contre les fusils. Et évidemment, c'est un moment formidable. Vous avez vu tout de suite, avec Antoine, on parle, et nos amis Le Garec, on parle de politique. Parce que dans ses opposants à l'époque à la centrale, dans ce petit village breton, près de la baie d'Audière, non loin, la baie des Trépassés, non loin de l'île de Sein, il y avait évidemment des opposants à la centrale qui étaient conscients des risques pour la santé, pour l'environnement, la radioactivité, le recyclage des déchets toujours problématiques. Mais il y avait aussi la mémoire toute fraîche encore du naufrage de la Moco Cadiz, et on voyait des banderoles et des pancartes dire « Mazouté aujourd'hui, radioactif demain ». Il y avait aussi dans ce coin de Bretagne des Bretons, bretonnants, pas très chauds pour se faire imposer des choses venant de Paris, de la capitale. C'était un peu la blanche hermine contre la fleur de lys. Et puis il y a toujours ce vent libertaire qui courait à travers ces années 70 et qui était un petit peu allergique au Parti communiste qui lui était favorable au nucléaire. Et ça, c'était un petit peu les verts contre les rouges, ou les noirs comme contre les rouges, comme on voudra. Et puis il y avait aussi les éternels conservateurs, amoureux de la nature et des petites fleurs, rétifs au progrès, et à celui-là aussi parmi d'autres. Et puis il y avait aussi les électeurs de Mitterrand, ou les adversaires de Giscard qui poussaient à la roue. Tout ça, ça faisait un ensemble de motivation qui a fait que entre les militants, il y avait encore des militants à ces époques-là, cette fin des années 80, même si les mouvements militants des années 70 connaissaient un certain déclin, il y avait des militants, mais il y avait aussi toute la population, vous allez les entendre, tout le monde s'y est mis dans ce genre de région bretonne. Les hommes vont sur la mer, vont au loin, sont dans la Roya, les voyages sont très longtemps absents. Et c'est les femmes qui tiennent les villages, qui tiennent les villes et qui administrent très souvent les choses. Elles s'y sont mis, les femmes, vous les avez déjà entendues. Tout le monde s'y est mis, c'est pas compliqué. Tout le monde s'est mis à lutter. Ça a été une lutte très dure et qui finalement l'a emporté. On a gagné contre cette centrale nucléaire. La semaine prochaine, on part au Japon. On part au Japon et au cours de notre itinéraire, on s'arrêtera à Iwashima. Iwashima, c'est une toute petite île de 400 habitants. Et dans cette petite île, les habitants se battent depuis 29 ans. 29 ans, chaque jour, ils se battent contre la construction d'une centrale nucléaire, et ils espèrent que la catastrophe de Fukushima suffira à leur faire enfin obtenir gain de cause. Plovgov, Iwashima, ce sera notre thème de ces jours prochains. Soudain, le nucléaire, les questions d'environnement, d'énergie, passent avant tout, surtout un jour comme celui-là, anniversaire de l'explosion de Tchernobyl. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Plovgov, un moment d'écologie populaire.
Sud, en effet, parce qu'une dépêche qui nous arrive en disant qu'à Copenhague, il y a une véritable ruée dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives.
Ça va au-delà de l'inquiétude.
On peut demander une menace.
Voilà, on peut demander au docteur Pellerin. Oui.
Oui, alors je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. J'ai eu ce matin des informations directement des services scandinaves avec lesquels nous travaillons dans le cadre du centre international que je dirige, et ce sont des gens très solides qui m'ont dit exactement ceci. Hier, on est arrivé en iode 131 à 10 becquerels par mètre cube d'air, et maintenant c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin.
Il s'agit
d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Alors, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine, sur le plan européen et mondial d'ailleurs, et qui est très intéressant à suivre pour les enseignements qu'on en tirera sur le plan des mouvements d'air, des masses d'air éventuellement radioactifs provenant d'un accident, mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées.
Ici, c'était un des hauts lieux de la résistance, ici. Hein. C'est le pont du Loc.
Absolument. C'était un point chaud, surtout de nuit, parce que c'était là qu'on élevait les barricades.
Alors, Nicole et Félix Le Garec, ici, c'est un des endroits où vous avez tourné votre film. Hein.
Oui.
Des pierres contre des fusils.
Effectivement, c'était l'endroit où on faisait de gros barrages, parce que c'est la voie principale pour accéder à Plogov. Le Cap Sizun, c'est une presqu'île, hein, Plogov, c'est dans une presqu'île, et donc les barrages avaient une grande importance. Et sur le môle, là, il y avait aussi non nucléaire qui est resté des années, hein, 10 ans, 20 ans peut-être. Et sur la colline, c'était non nucléaire aussi, mais avec des pierres.
Et l'inscription s'est effacée aujourd'hui, mais elle redevient d'actualité, quoi. Il faudrait le réécrire peut-être sur ce môle. Et on peut féliciter donc les lutteurs et les anti, enfin les lutteurs et la population, hein, de Plogov d'avoir résisté il y a 30 ans maintenant à l'installation d'une centrale.
C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe au Japon, les gens me disent ben merci, hein, heureusement qu'on a lutté. Quand on voit la carte, on a souvent vu la carte des centrales nucléaires en France, puis on voit qu'en Bretagne, bon, on n'a pas. D'avoir vu clair il y a 30 ans, c'est important.
Donc ici, dans le film, on voit des voitures en feu, une vieille 404 qui a servi, j'imagine, de barricade. Oui. Vous vous souvenez, vous étiez à la caméra, vous, donc chef op, Félix.
La route qui accède à Plogov, c'est une route assez étroite. À ce moment-là, les gens de Plogov ont barricadé avec des vieilles voitures, des carcasses de voitures, tout ce qu'ils trouvaient. Et les gendarmes mobiles sont arrivés par camion. Il y avait une trentaine de camions à peu près, hein, qui étaient là. Donc on a filmé de nuit l'affrontement entre les gardes mobiles et la population. Ça a duré assez longtemps. Hein. Donc ils ont eu du mal. Les forces de police ont été surprises de voir la confrontation. Là, ils ne s'attendaient pas à ça.
Comme le journal de bord de cette lutte victorieuse.
Oui, parce qu'on a filmé au jour le jour tout ce qui se passait. Donc les gens s'y retrouvaient. Et actuellement encore, on a toujours le même succès avec ce film. On l'a passé récemment près de Rennes, la salle était comble.
Vous n'étiez pas à votre coup d'essai, vous étiez déjà des professionnels de l'image. Vous aviez travaillé avec René Vautier sur le film « Avoir 20 ans dans les Aurès », magnifique. Hein. Donc vous aviez déjà une pratique, donc c'est un film documentaire que vous avez réalisé en connaissance de cause. Quoi.
Oui, mais le problème qui a failli que le film ne se fasse pas, c'était le problème financier, parce que on n'avait pas un centime pour faire ce film, même pas l'argent pour acheter la pellicule. Donc voilà, c'était vraiment un film militant sur ce plan-là aussi, quoi.
L'herbe rince, puis très vite une échine rocheuse à nu qui s'enfonce peu à peu dans l'océan.
Bretagne actualité.
Dans cette arête de pierre, la mer a foré l'immense cuve où elle bouillonne et danse en faisant retentir les parois de ses coups.
21 septembre 1978.
C'est là l'enfer de Plogoff et jamais lieu dit n'a mieux mérité son nom. Aux heures des plus grandes violences, on peut, dit-on, y entendre gémir les âmes des trépassés. C'est là, dans l'anse de Fountainhaut, la fontaine du rivage entre le port d'Audierne et la pointe du Raz, que pourrait s'implanter la centrale nucléaire prévue pour la Bretagne. À deux conditions toutefois. 1. Que le conseil régional émette un avis favorable. 2. Que le gouvernement suive l'avis de l'établissement public régional dans sa décision.
La résistance à Plogoff et la victoire des habitants de Plogoff contre ce projet nucléaire a cristallisé toute une résistance au sein de la Bretagne. Donc EDF avait décidé d'implanter une centrale nucléaire en Bretagne, centrale nucléaire de production. Hein. Et donc il y avait eu déjà plusieurs luttes dans d'autres villages, c'est ça?
Absolument, il y avait eu à Erdeven, dans le Morbihan. Et là, ils avaient tout de suite une levée de boucliers aussi, avec beaucoup d'informations. Ils avaient fait appel à des scientifiques. C'était une résistance que le préfet n'attendait pas, et donc ils ont baissé les bras assez vite. Il y avait eu Ploumoguer, mais Ploumoguer était près de Brest, et les élus, la Bretagne était à droite à ce moment-là, et les élus de Brest, les élus de la région, ne voulaient pas d'une centrale à Ploumoguer, c'était trop près de Brest, mais ils la voulaient bien à Plogoff. Et il se trouvait que le député RPR de l'époque, Germer, lui, était favorable à une centrale, même à Plogoff, c'est-à-dire dans son secteur. Donc évidemment, Plogoff avait beaucoup d'atouts pour la préfecture. Il y avait cet aspect que c'était une population vieillissante, que les hommes adultes, ils étaient marins de commerce ou militaires, et qu'il y avait que des femmes et des vieux, disait-il. Et donc, il n'y aurait pas de résistance donc à Plogoff, puisqu'il n'y avait que des femmes. Voilà, c'est comme ça que ça, tout s'est cristallisé sur Plogoff. Ces centrales baladeuses, c'était Plogoff. Et là, ils ne voulaient plus lâcher. Si on lâchait Plogoff, c'était toute la Bretagne qu'on lâchait. Quoi.
Et donc là, il y a eu une alliance entre donc les mouvements antinucléaires et la population de Plogoff, qui était au départ bien loin de ces questionnements, quoi.
Absolument. Mais ce sont des gens déterminés. Et à partir du moment où ils ont choisi leur cause, ils vont au bout. Et à partir de là, ils se sont battus vigoureusement, on peut dire.
Sept escadrons de gendarmes mobiles, des gendarmes parachutistes, des blindés, des véhicules du génie militaire venus d'Angers, qui pour franchir les barricades, des grenades incapacitantes, c'était violent, des grenades lacrymogènes instantanées, du bromoacétate d'éthyl, etc. Tout ça pour essayer de mater la détermination des habitants de Plogoff. Il n'y avait pas que les habitants de Plogoff, il y avait quand même des militants venus d'un peu partout, des gens concernés venus d'un peu partout, pour venir à leur secours au cours de ces six semaines de bagarre, dont il reste une sculpture de Robert Vaillant, qui est le lance-pierre et qui représente un personnage avec un lance-pierre. Ils ont lancé des pierres, vraiment, avec leur lance-pierre, ces gens-là, contre les gardes mobiles, contre les forces de l'ordre venues défendre l'ordre qui voulait qu'on construise une centrale. C'était le grand moment de la nucléarisation du pays, suite, on l'a raconté, enfin vous connaissez cette histoire, suite au choc pétrolier, la France s'est lancée à fond dans le nucléaire, et il était prévu qu'on en construise une centrale dans cet endroit. Quelqu'un qui a été un acteur de cette histoire de Plogoff et qui en a tiré un livre passionnant, c'est Gérard Borvon, qui nous avait écrit d'ailleurs il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, en avril, en nous disant mais ce serait peut-être intéressant de reparler de tout ça. C'est bientôt le 10 mai 2011, donc 30 ans après la venue au pouvoir de François Mitterrand, et ce serait intéressant d'évoquer ce moment d'écologie populaire que fut Plogoff.
Ce qui s'est passé dans la mobilisation, c'est que le projet de Plogoff est arrivé de façon assez tardive. Donc avant, il y a déjà eu des mobilisations, on le sait. Les militants, là, vraiment déjà, qui étaient un peu sensibles, qui étaient allés à Fessenheim. On s'était fortement mobilisé aussi dans l'Ouest contre la centrale de Flamanville, qui commençait, la première tranche, qui commençait à se construire. Et donc, la Bretagne a été une des régions les dernières à être visée. Hein. Et là, le choix qui a été fait, c'est le choix de la centrale baladeuse, c'est-à-dire il y avait 5 ou 6 sites, et on nous emmenait en bateau sans nous dire où ça allait se faire. Ça a été à Erdevin, dans le sud de la Bretagne. Ça a été alors une des bagarres sur laquelle moi j'ai d'abord accroché, c'était Ploumoguer, dans le Nord Finistère. Alors là, on avait vraiment l'impression que c'est là que ça allait se faire. Et pendant tout un temps, il y a eu une forte mobilisation. Puis tout d'un coup, cette région de Ploumoguer, beaucoup de jeunes agriculteurs, du genre paysans-travailleurs, ce qui a donné la Confédération après, mobilisation très forte avec une ville à côté, Brest, avec beaucoup d'étudiants. Les autorités sentent qu'il faut changer le fusil d'épaule et se disent dans le sud Finistère, là, Plogoff, la petite pointe, beaucoup de personnes âgées, des marins de l'État, disciplinés, des marins de la marine marchande, enfin bon, des gens qui vont pas résister, c'est peut-être là qu'il faut aller. C'était l'erreur. Hein.
Après Crémalville, quoi, donc la mobilisation, ouais. Et la mort d'un militant.
Effectivement, oui, ça s'est situé, Crémalville, justement, dans le créneau entre la mobilisation sur Ploumoguer, dans le Nord Finistère, et Plogoff. Hein. Donc les groupes déjà qui étaient constitués autour de la centrale de Ploumoguer savaient ce qui allait se passer à Malville. D'ailleurs, c'était une manifestation qui était préparée pour être très très bien organisée, pour être préparée, pour être pacifique, justement, et les groupes qui venaient d'un peu loin, comme les nôtres, étaient accueillis par un groupe local, on savait où on allait, etc. C'était quelque chose qui devait bien se passer. Hein. Et donc, pendant tout le temps où cette centrale baladeuse, là, tournait, eh bien, partout où il y avait menace de centrale, se mettaient en place des collectifs. On a appelé ça des comités locaux d'information nucléaire, les CLIN. Et puis, il y a eu un événement vraiment qui a accéléré tout ça, c'est la marée noire de la Moukoukadis. Alors là, ça a été vraiment le coup de peine basse, comme on dit chez nous, le bâton casse-tête. Et de voir qu'un super tanker qui était un des plus modernes, et un des modernes qui a eu des manifestations immédiates, ça a été mazouté aujourd'hui, radioactif demain. Enfin, le lien a été fait immédiatement. Et des comités anti-marée noire se sont créés un peu partout le long de la côte. Et quand la mobilisation autour de la Moukoukadis s'est arrêtée, tous ces comités se sont transformés en comités locaux d'information nucléaire, en CLIN. Le travail des CLIN, c'était d'essayer de savoir, parce qu'il y avait un blackout sur l'information nucléaire, et bien d'aller expliquer aux gens, de s'enseigner soi-même, et ensuite d'aller expliquer voilà ce qui va nous arriver. Et donc tous ces CLIN, quand la lutte a démarré à Plogoff, eh bien ils sont allés à se mettre à la disposition du comité de lutte des habitants de Plogoff. Ils ont été regardés d'ailleurs un petit peu avec suspicion au début. Hein. Il y aurait pu avoir un fossé là entre ces militants qui arrivaient un peu jeunes, un peu chevelus, et la population un peu rude de Plogoff. Et puis après un premier temps d'observation, au contraire, la mayonnaise a pris. Et ça a été au contraire quelque chose qui a été de formidable de voir cette population qui était capable d'accueillir ces jeunes des CLIN même d'ouvrir leur garage, leur salle à manger, même le soir, après les grosses manifestations, pour les faire dormir, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant et d'assez rare. Et je pense que c'est cette fusion entre tous ces comités et la population de Plogoff qui a été un des facteurs importants, parce que les gens de Plogoff n'étaient pas enfermés sur eux-mêmes. C'est une des dimensions qui a été efficace dans cette lutte.
Pour le Torrey Canyon, pour la Moco, Breton, sortez vos pelles, sortez vos seaux. Olympique et Pollen, biscuit et Tita, pour ramasser la merde, les Bretons sont là. Pour le Gino, l'Éricain, le Tagno, on ressort nos pelles, on ressort nos seaux. Chez la Moco, bébé Total Fila, ras-le-bol de votre merde, ça suffit comme ça. Depuis 30 ans, une sale manie perdure. Les pétroliers par milliers de tonnes en coulant viennent chier leurs hydrocarbures, prenant pour poubelle les côtes bretonnes.
La Bretagne en colère par ses marées noires regarde consternée les vagues déferlées, apportant sur ses grèves ce foutu coltard et son macabre lot d'oiseaux mazoutés.
Pour le Torrey Canyon, pour la Moco, Bretons, sortez vos pelles, sortez vos seaux. Olympique et Pollen, biscuit et Tita, pour ramasser la merde, les Bretons sont là. Pour le Gino, l'Éricain, le Tagno, on ressort nos pelles, on ressort nos seaux. Chez la Moco, bébé Total Fila, ras-le-bol de votre merde, ça suffit comme ça.
Au départ, la question était de préserver son territoire, hein, de préserver cet endroit magnifique. Mais est-ce qu'il y a eu une réelle prise de conscience des dangers du nucléaire au sein de la population vraiment de Plogoff?
Alors oui, il y avait une appartenance au territoire, il y avait ce côté défense du territoire.
Nicole Le Garec.
Mais ils se sont tous informés, c'est-à-dire même les gens les moins informés savaient qu'il y avait des déchets.
Réalisatrice du film « Des pierres et des fusils ».
Et qu'on allait probablement polluer la mer. Et en Bretagne, et près de la mer en plus, la mer c'est un peu c'est sacré quoi, chez nous. Et il y avait eu 2 ans avant la Moco Cadi. Cette nappe noire sur des kilomètres, ça jouait le rôle de déclencheur très certainement. Et quand ils ont compris qu'il y avait des déchets à une durée très très longue, ils ont dit non, on va pas nous mettre ça, c'est un coin très poissonneux. Nous, on a filmé dans le film, il y a cette pêche-là au pied du phare de la Vieille. Le gars, il dit, mais c'est extrême, un des coins les plus poissonneux au monde. Il y a de tout ici, il y a des bars, il y a des... Bon, voilà. Et donc, c'était leur richesse qu'on leur enlevait aussi.
C'est un coin dangereux, c'est pour ça que c'est un coin poissonneux. Au pied de la Vieille, c'est un coin très poissonneux, puisqu'on peut pas aller tout le temps, hein. C'est un coin très dangereux. Il y a du poisson. Il y a du poisson partout. Et on sait bien où qu'on racle le fond pendant 6-7 mois de l'année et où qu'on voit que 10 jours. Ben, le poisson, il reste là. Il y a toutes sortes de poissons là. Il y a des vieilles, des bars, des congres, de tout. Même, je dirais toutes les espèces possibles. Imaginez, c'est là, dans la, c'est là leur domicile. Quoi. C'est là leur maison. Là, on ne peut pas aller les prendre. Là. Quand on les chasse ailleurs, ils se réfugient là.
Alors donc, on était en 1980. Et l'enquête d'utilité publique a commencé le 31 janvier. Pour se terminer le 14 mars, donc 6 semaines. Très vite s'est installé le moment, le temps fort de la journée, 16h30, hein, à 17h, bon, suivant le temps de la bagarre. Et on appelait ça les messes. Parce qu'il y avait référence souvent, la religiosité a été mise au service de la lutte. Et donc, les gens de Plogoff avaient mis au point un certain vocabulaire. Il y avait les séminaristes, c'était les forces de l'ordre, les gardes mobiles, parce qu'ils logeaient au séminaire de Pont-Croix. Et l'hélicoptère s'appelait la mère poule. Bon, et donc, tous les jours à 17h, il y avait affrontement. Mais les femmes étaient là depuis 9h le matin. Elles ont mené la lutte et spontanément, elles ont fait du harcèlement aux gardes mobiles, rien qu'en se plantant là devant eux avec des regards durs, hein, et puis aussi quelques paroles, évidemment, hein, quand une grand-mère vous dit « Tu pourrais être mon petit-fils, mais j'aurais honte d'avoir un petit-fils comme toi ». ça marquait.
Dès le lendemain, Plogoff va mettre en place sa propre résistance.
J'ai répondu que jusqu'à preuve du contraire, j'étais chez moi, alors qu'eux étaient là en occupant.
Chaque jour,
ça l'a gêné,
à Saint-Yves,
ah, oui.
Toute la commune, femmes en tête, se relaient pour harceler les gardes mobiles.
Il était pourtant assez loin de moi et il est venu vers moi en me disant « Pourquoi me regardez-vous avec cet air méchant ?»
Dès 9h, les femmes étaient là-bas. Hein. Il y a beaucoup qui savaient frapper juste. Et des mots qui faisaient mal parce que les jeunes qui tenaient pas le coup. Ils étaient obligés de se faire remplacer. Il y a des jeunes qui ont craqué, ils se sont mis à pleurer.
Bon, j'ai continué à m'adresser à lui en lui disant qu'il était très jeune et que j'aurais pu être sa mère.
Les images que vous avez vues dans le film, par exemple, où il y a les attaques de charges de garde mobile dans le champ, c'est là. Moi, je m'étais là, je me couchais dans le champ là, pour filmer ici.
Félix Le Garec.
Et tout se passait là.
Réalisateur du film Des pierres et des fusils.
Donc ici, on est à Trogor. Hein.
Ouais,
c'est Trogor à Plogoff.
Et la bagarre souvent se déplaçait dans le champ, effectivement, avec les femmes qui essayaient de retenir les jeunes, qu'ils ne soient pas arrêtés. Les femmes, elles se battaient avec les gardes mobiles, quoi.
Donc ici, on est sous le calvaire, en face de la maison du sculpteur de granit.
Le haut lieu, hein, là où se passaient les messes tous les soirs. Ils avaient commencé par un autre lieu qui s'appelle Saint-Yves. Ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait autant de manifestants. Et finalement, c'était un piège pour eux. Il y avait plus de blessés chez les gardes mobiles que chez les manifestants. Alors, ils se sont vite repliés sur Trogor, où il y a quand même plus d'espace, quoi.
Et combien de temps ça a duré, alors, cet affrontement ?
L'enquête d'utilité publique durait 6 semaines. Et l'affrontement a duré 6 semaines.
L'enquête que la population, et notamment le maire, avait refusé d'accueillir au sein de la mairie de Plogoff.
Absolument, parce qu'il s'était renseigné, ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'il pouvait dire non, il pouvait manifester une opposition à la centrale, au projet. Et en fait, le projet se faisait quand même. Donc à ce moment-là, autant le refuser, l'enquête. Hein. Donc le maire a fermé sa mairie, on a brûlé le dossier. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'amener les mairies annexes sur roues, quoi, entourées de gardes mobiles.
Dans des petites camionnettes, quoi, des estafettes.
Dans des camionnettes, des estafettes.
Il avait été décidé que ce dossier d'enquête serait arrivé à la mairie hier 30 et qu'on l'aurait brûlé cet après-midi, c'est-à-dire à 15h aujourd'hui. Mais par la suite, nous avons changé d'idée parce que l'enquête commençant ce matin à 9h, il fallait qu'il soit brûlé avant. Bien, nous n'avons pas eu le temps de produire tout le monde et ça a été fait hier, tout de même en présence d'une population assez dense, c'est-à-dire beaucoup de Plogoff et des environs. Cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses et les gens, lorsqu'ils n'étaient pas présents, ne peuvent pas s'imaginer ce qui s'est passé. Je suis à 3h ce matin, on m'a réveillé pour me dire les lampes s'allument dans les dortoirs du petit similaire où sont les similaristes. À 3h ce matin, c'est très bien parce qu'au moins le bureau de renseignement il a très bien marché. À 4h, par conséquent, ces messieurs, les similaristes, trouvaient sur le fond du lot. Il est évident qu'il faut remercier tous les gens qui ont été sur le pont du Loge parce qu'ils ont fait un travail formidable et ils ont mis 4h pour franchir le feu au lot. Ça aussi, il faut le dire. La confiance est là et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus et je dis, on les aura. Ça, il faut le dire.
Alors on est devant la mairie de Plogoff, fermée pendant toute la période de l'enquête publique.
Oui, effectivement, le maire Jean-Marie Kerlor a fermé sa mairie à l'enquête d'utilité publique le premier jour, donc le 31 janvier, premier jour où nous filmons, nous aussi. Et le maire est là, il annonce, l'enquête commençant aujourd'hui, il a fallu qu'on brûle les dossiers hier.
C'était un acte de désobéissance assez puissant de la part du maire qui avait été lui-même dans la Royale, c'est ça ? Dans la Marine ?
Oui, il avait été dans la Marine, dans la Royale, donc militaire. Et c'était effectivement très puissant de pouvoir dire non à ce point-là, ils se mettaient dans l'illégalité totale. Et voilà, mais ils l'ont fait.
Parce qu'en plus, il y avait, disons, une unanimité totale au niveau politique sur le besoin de développer le programme électronucléaire en France. Et donc, de la droite jusqu'au Parti communiste, le projet était soutenu, le projet de faire des centrales, et notamment à Plogoff.
Le président, c'était Giscard d'Estaing à l'époque, donc il était pour le nucléaire. La préfecture, forcément, aussi. La Bretagne était à droite, donc la région, hein, le conseil régional, le département et le député RPR étaient tous pour la centrale, si bien que c'était vraiment une disproportion, quoi. Hein. C'était le petit David contre Goliath. On ne donnait pas cher, d'ailleurs, de la résistance à Plogoff. Hein.
Et à gauche ?
Alors, à gauche, déjà, il y avait eu le cas des communistes. Alors, il y avait Georges Marchais qui était venu à Rennes pour annoncer qu'il fallait faire une centrale à Plogoff. Et il y a eu même la visite d'André Lajoigny sur place à Plogoff. Fort heureusement, le mot d'ordre a été que Plogoff soit ville morte, quoi, hein, fermer les volets, et puis voilà. Donc, oui, ça a été dur. Ça a été très, très dur à accepter. Au niveau du PS... Moi, personnellement, par exemple, le soir du Vendredi Noir, le 29 février, quand il y a eu 11 arrestations, j'avais appelé Louis Le Pinsec, qui était le député. Il n'y avait pas beaucoup de députés PS en Bretagne à l'époque. Et lui, il était. Bon, il était côté de l'Orient. Hein, et lui était contre le projet. Et la plupart des gens du PS de Bretagne soutenaient quand même Plogoff.
Soutenaient la lutte des antinucléaires.
Des antinucléaires. Ça ne voulait pas dire que le PS était antinucléaire. Hein. Ça, non. Mais on n'a pas eu de la centrale à Plogoff. Ça, voilà. Et ça a été une décision politique. Les gens d'EDF me disent, nous, on sera les chevaux.
Une décision politique en ce mai 1981, ce 10 mai 1980, qu'on va célébrer dans les jours qui viennent, le 30e anniversaire de l'avenue au pouvoir des socialistes avec François Mitterrand. Évidemment, Plogoff a joué un rôle là-dedans. Les écolos, à l'époque, ont joué un rôle dans le succès de François Mitterrand. C'est le point de vue de Gérard Borvon, qui est l'auteur d'un bouquin sur ce sujet, Plogoff, un combat pour demain.
Il faut situer le moment où on se trouve, hein, c'était février 80, et ensuite, eh bien, on arrive à 81, et puis on arrive aux élections. Hein. Et donc, on arrive avec une élection qui est assez serrée. Hein. Et premier tour des élections, à droite, Giscard 28,3%, Chirac 18%, Debré à 66%. Enfin, l'ensemble de la droite fait 49,3%. Hein. Et puis l'ensemble de la gauche, Mitterrand, Marchais, Laguiller, Crépeau, etc., etc., ça fait 46,7. Donc on a une avance de la droite, et là c'était Lalonde, l'écologiste, 3,9%. Donc on a la droite qui est devant, on a Mitterrand juste derrière, et puis 3,9% score écologiste. Donc là, on sent qu'on a un réveil des socialistes qui se dit qu'il faut quand même écouter un petit peu ce qui est en train de se passer du côté des écologistes. C'est là que François Mitterrand envoie au comité de Plogoff une lettre, alors datée de très peu de temps avant le premier tour d'ailleurs, hein, c'est daté du 23 avril, hein, dans laquelle il s'engage auprès des gens de Plogoff, alors une lettre dans laquelle il s'engage à faire un référendum. Alors là, c'est plutôt dans un des meetings auxquels il était venu, qu'il s'était engagé, s'il était élu, Plogoff ne se referait pas. Donc il y avait toute une réflexion, le peuple serait consulté, il y aurait un référendum, un débat, et le programme serait arrêté, et l'argent qui serait économisé servirait aux énergies renouvelables, etc., etc. Donc un très très beau discours qui a sans doute été entendu par les militants qui avaient voté Lalonde, parce que la mobilisation nucléaire, quand même antinucléaire, était quand même une des fortes mobilisations du mouvement écologiste à ce moment-là, et la campagne de Lalonde avait beaucoup porté là-dessus, quoi. Si bien que le deuxième tour était serré et que eh bien le 10 mai tout le monde était rassemblé dans le local, enfin tout le monde, il y avait du monde dans le local de Radio Plogoff, à attendre le résultat de l'élection. Et quand on a su que Mitterrand était élu, pour tous les gens qui étaient là, c'était, on a gagné, la centrale s'est terminée. Donc c'était la joie. Alors après, bah, il restait à attendre la suite. Hein. Il restait à attendre
les promesses,
le débat,
ouais, ouais.
Le référendum, hein, le développement des énergies renouvelables. Et c'est là que, eh ben, on a trouvé, parmi justement un certain nombre de militants, les premiers déçus du mitterrandisme. Parce que, en fait, débat, l'affaire a été liquidée pendant les vacances. Paul Quies était invité à faire un rapport. Alors, il n'était plus question de, ni de débat, ni de référendum. On avait 15 jours pour consulter la société civile, syndicats et tout ça. Oui, tout ça pendant l'été, le mois d'août. Et à la rentrée de septembre, eh bien, ça y est, le projet de loi était bouclé. Il passait dans la foulée un projet de loi qui décidait la poursuite du programme électronucléaire sans pratiquement qu'il soit modifié, quoi. Il y avait 6 tranches qui devaient être construites et il y avait juste Plogoff qui était arrêté, quoi. Donc, tout ce qui avait pu être promis, eh bien, est passé à la trappe, quoi. Bon, il aurait fallu se mobiliser à ce moment-là, mais quand on sort d'une lutte assez longue, quand on sort assez fatigante, hein, puis bon, il y avait l'euphorie quand même de la victoire, on n'a pas vu une mobilisation forte, du moins sur l'ensemble du territoire, pour amener les socialistes à tenir leurs promesses.
Hein. Radio Plogoff.
Sur 92 MHz.
Une radio toute verte.
Une radio ouverte.
Dans une rue de Paris,
le 10 mai à 19h55.
Dans une rue sombre de Paris, il y a des volets qui se ferment. Et cette rue, c'est laquelle, Paul ?
Eh bien, c'est la rue de Marignan, c'est la rue du siège de notre cher ancien président. Cette rue.
Ça y est, c'est passé, je crois que c'est passé, ça y est, il semblerait. Il y a
un résultat.
Il y a une question rapide du grenier. Alors, 51.
51-7 pour François Mitterrand. Alors c'est absolument délirant. 51-7 pour Mitterrand. Le changement est au bout de la ligne, on continue. C'est le délire ici à Radio Plogoff. C'est le délire en effet. Bon, je crois qu'on va passer un peu de musique. Moi j'ai plus rien à dire.
Allez, c'est lui.
Et champagne.
Et vous revenez régulièrement à Plogoff ?
Oui, il y a un café face à la baie, à la mer, et là viennent les gens du pays, puis des gens comme nous. On retrouve Jeannot Cariou, on a des nouvelles de Marie Carval ou d'Amélie. Et
j'imagine que personne ne regrette de n'avoir cédé au chant des sirènes d'EDF et d'avoir aujourd'hui une magnifique centrale nucléaire à 2 pas de son jardin, j'imagine, et de sa maison.
On n'a pas eu, non. Je n'ai pas eu d'écho de gens qui regrettaient. Et il y a une fierté quand même, hein. Il y a une fierté quand même d'être parvenu à faire plier, on peut dire, et puis à s'opposer réellement, quoi, avec une réussite. Non, il y a une fierté, c'est sûr.
D'autant plus que les événements du Japon, je pense que là aussi, ça fait réfléchir les gens.
Donc voilà, heureux habitants de Plogoff qui ont évité comme ça d'avoir un réacteur près de chez eux. Mais malheureusement, le programme électronucléaire français a continué ailleurs, quoi.
Eh oui.
Ça, c'est dommage.
Il ne faut pas s'indigner, il faut se révolter. Quand il y a une manif à Quimper, j'y vais. Je trouve qu'il ne faut pas rester les bras de... Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un certain âge, il faut foncer dedans.
S'engager.
Félix, alors vous avez filmé tous ces moments, et après vous avez monté le film rapidement, et vous l'avez projeté, vous l'avez présenté...
Au Festival de Douarnenez, la projection a pratiquement duré toute la nuit, les salles étaient combles. Reprojetait.
En boucle.
Les gens faisaient la queue.
C'était avant la victoire, d'ailleurs on a mis au lieu de mettre le mot « fin », on mettait « à suivre ». Si François Mitterrand n'était pas élu, eh ben, il fallait, y aurait eu une suite. Ensuite, on est venu à Plogoff. Et là, comble aussi, à tel point qu'il y avait des gens qui pleuraient parce qu'ils ne l'avaient pas vu. Et donc, j'ai dit, ben, on va faire une projection pour vous demain. Et là, quand on a sorti le film comme ça, on a compris que là, le film ne nous appartenait plus. Là c'était le film de Plogoff. Et le public s'en emparait, quoi, On a fait d'autres films, mais j'ai pas ressenti ça de cette façon-là.
Avis aux électrons.
Radio Plogoff.
Sur 92 MHz. De 10h à 13h. De 17h à 20h.
Une radio libre d'expression antinucléaire.
Une radio active.
Monsieur le Président, Plogoff vous fait une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Nous sommes informés qu'une centrale nucléaire est prévue sur nos terres d'ici quelques années. Monsieur le Président, ignoblement nous sommes trahis, faut voir comme par Germer et Sergent. C'est pas pour vous fâcher, mais il faut qu'on vous dise, notre décision est prise, on va la refuser.
Voilà, merci à toutes et à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à Nicole et Félix Le Garec. Merci aussi à Gérard Borvon. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Damien Sangali, Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Le Bot et Marina Tuyez. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis, je vous le disais en commençant, lundi prochain, nous partons pour le Japon, Fukushima, Hiroshima, un carnet de route dans un Japon qui doute. Il est 16h05 sur Inter. À demain, 15h, pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Florence Tomaso. Salut.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 27 avril au 22 mai Noli Métangueré 2 et mise en scène par Jean-François Sivadier aux Ateliers Berthier. Après sa mémorable Dame de chez Maxime, Sivadier retrouve l'Odéon avec une désopilante comédie biblique où le mythe et l'histoire mènent une danse endiablée. Retrouvez Noli Métangueré dans les émissions de France Inter.
Les infos, Florence Tomaso.
France Télécom, frappé aujourd'hui par un nouveau suicide. Un salarié du groupe travaillant dans une agence professionnelle à Mérignac, près de Bordeaux, s'est immolé par le feu sur le parking de l'entreprise. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pu être sauvée. Selon un responsable CFE-CGC, la victime avait mal vécu le fait de changer souvent de poste sous la présidence de Didier Lombard. Une mobilité imposée qui lui avait fait vendre sa maison. Les courriers qu'il avait adressés à la direction n'ont jamais donné lieu à une réponse. Paris et Rome de nouveau sur la même longueur d'onde à l'issue du sommet franco-italien qui se tenait à Rome en fin de matinée. La France et l'Italie ont décidé de demander à Bruxelles de renforcer temporairement les contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne suite aux tensions nées entre les deux pays de l'afflux d'immigrés tunisiens. Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi veulent une modification des accords de Schengen. Sur les conflits arabes, le président français a accueilli favorablement l'engagement de l'aviation militaire italienne sur des objectifs militaires en Libye. Concernant la répression en Syrie, le chef de l'État a qualifié la situation d'inacceptable, ajoutant qu'on n'envoie pas face à des manifestants des chars, l'armée, qu'on ne leur tire pas dessus. Malgré la répression sanglante, aucune intervention dans ce pays n'est à l'ordre du jour. Nicolas Sarkozy.
Je voudrais rappeler qu'avant l'intervention en Côte d'Ivoire comme en Libye, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité et qu'il ne saurait être question de quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas une résolution du Conseil de sécurité. Ce n'est pas si facile à obtenir. Mais il n'en reste pas moins que sur la Syrie, je maintiens que la situation n'est pas acceptable. Il y a eu un changement historique. Et clairement, la France, nous sommes aux côtés des peuples arabes dans leur aspiration à la démocratie et à la liberté. Il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. On n'envoie pas, face à des manifestants, des chars, l'armée, on ne leur tire pas dessus La brutalité est inacceptable.
Nicolas Sarkozy depuis Rome. Et justement en Syrie, la répression sanglante aurait fait au moins 400 morts depuis la mi-mars selon une ONG syrienne indépendante. Les coups de feu retentissent encore aujourd'hui dans les rues de Dera où les civils sont retranchés dans leurs maisons afin d'échapper aux tirs des chars et des blindés. Triste anniversaire en Belgique, cela fait un an que le pays est sans gouvernement depuis que le roi Albert II a accepté la démission de l'exécutif. Les partis politiques ne réussissent pas à surmonter leurs divergences. Les observateurs estiment qu'aucun accord entre Wallons et Flamands ne devrait être trouvé avant l'été. Pour le Premier ministre par intérim, Yves Le Terme, 3 mois seront encore nécessaires pour former une coalition.
Tous les jours, à partir de 11h,
l'absus du matin,
le fou,
chacun,
du roi,
Stéphane Bern.
Ben voilà,
merci, bonne journée.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Jacques Perrin et Océane Rosemary, rendez-vous demain mercredi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
C'est bien travaillé.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Ben oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 16h passé de 4 minutes. Tout de suite, Frédéric Lodéon, Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Florence. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, merci de nous écouter, même très loin, à l'île Maurice. Oui. Alors on nous signale qu'il n'y a toujours pas de podcast, on ne peut pas pour l'instant, c'est des questions de droit, ça ne dépend pas de Radio France, mais des ayants droit justement, éditeurs en général, qui coincent sur le fait qu'il faudrait payer pour avoir ces podcasts. Bon, discussion toujours en cours, il y a le streaming qui fonctionne, c'est-à-dire on peut entendre l'émission pendant un certain temps sans pouvoir la garder avec soi. Ça n'est pas toujours parfait, me dit-on, en tout cas à l'île Maurice. Il y a quelquefois des ruptures de réseau. Et oui, on fait tout ce qu'on peut, je vous garantis. Et on pense bien à vous et avec beaucoup d'affection. Daniel Barenboim, de nouveau, grand pianiste, chef planétaire, conscience de ce monde. Donc nous avons un partenariat avec 3 disques de Daniel Barenboim, puisqu'il a produit récemment un récital à Varsovie. Il a offert à ses admirateurs ce magnifique récital Chopin. Il y a aussi un enregistrement avec les 2 concertos du même Chopin et l'orchestre Staatskapelle de Berlin, dirigé par Andris Nelsons. Et puis on va entendre pour la première fois pendant cette semaine un extrait du disque avec orchestre, le fameux Divan Orchestra. C'est un orchestre qui veut réconcilier des frères ennemis, parfois en politique, mais en musique il n'y a pas d'ennemis, comme on le sait. Pour commencer, Polonaise dite héroïque de Frédéric Chopin. Chopin disait lui-même qu'il ne fallait pas la jouer trop vite, donc ça c'est fait, qu'il ne fallait pas non plus jouer trop fort, pas canonner. Donc alors là, Daniel Barenboim est assez puissant, mais c'est une volonté de mettre en valeur les contrastes entre justement une certaine violence et puis la sensualité de l'œuvre. Nous arrivons, dans l'extrait qui nous occupe, au 2e épisode, très fameux, parce qu'il y a une sorte de répétition obstinée à la basse après les accords qui ouvrent cette 2e section.